Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Brive pour cette foire du livre et bienvenue en cet espace Alain Gazeau. Je suis Pierre Croze du site Babelio, un site qui vous permet de constituer votre bibliothèque et d'ajouter, pourquoi pas, des critiques des livres achetés pendant cette foire du livre. Notre rencontre aujourd'hui s'intitule « Romanesque ». Puisque les trois auteurs que j'ai à mes côtés ont fait le pari, chacun à leur façon, de proposer des fictions pures dans des genres littéraires, d'ailleurs parfois peut-être un peu oubliés ou négligés, des fictions certes, mais dans lesquelles il est aussi question d'angoisse très contemporaine. Prodigieusement romanesque, c'est ainsi que votre roman Jean-Baptiste Andrea a été qualifié par les membres de l'Académie Goncourt qui vous ont attribué le prestigieux prix Goncourt. Il est ici, Veillez sur elle, il est publié aux éditions de l'Iconoclaste. On plonge dans ce roman dans les souvenirs d'un vieil homme qui meurt dans un monastère reculé en Italie. On découvre sa vie de sculpteur, de pierre géniale, sa relation improbable avec une fille de la bourgeoisie ligure, mais aussi les soubresauts du siècle avec la montée inexorable du fascisme dans le pays. Il est aussi question d'une mystérieuse statue cachée par le Vatican. Vous serez tout le week-end en dédicace au stand L28. On va rester un petit peu en Italie avec vous, Laurent Binet. Bonjour Laurent. Mais on va aller un peu plus loin dans le temps. Vous publiez quant à vous Perspective aux éditions Grasset. Il n'est pas question dans votre roman de sculpture mais de peinture. Nous sommes dans la Florence du XVIe siècle avec un grand peintre, Pontormo, qui a existé mais qui dans votre roman vient d'être assassiné. C'est un polar historique que vous proposez. Qui a tué Pontormo? On découvre au fil des pages, au fil des lettres, que beaucoup de gens avaient peut-être intérêt à le voir disparaître. C'est en effet une Florence à la situation politique, artistique, religieuse, complexe que vous présentez. On est à la fin, toute fin de la Renaissance. Alors j'ai dit que c'était un polar historique, mais il faut aussi préciser qu'il s'agit d'un polar historique épistolaire. Vous nous direz ce qui vous a intéressé dans ce genre littéraire très en vogue, notamment, particulièrement peut-être, au XVIIIe siècle. Vous êtes en dédicace aujourd'hui au stand L25. Ce ne sont pas des lettres qui sont au cœur de votre roman « L'abîme » Nicolas Chemla. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Mais les pages d'un journal intime, un journal laissé par quelqu'un qui est mort de façon inexpliquée, non élucidée, dans un immeuble très particulier de Paris, très angoissant peut-être. On y reviendra. L'abîme paraît aux éditions Le Cherche Midi. Et on plonge dans ce roman, dans la folie apparente d'un homme qui voit sa réalité se fissurer peu à peu. On va parler de cette folie, des événements qui l'entourent aussi, et d'un personnage très important dans votre roman, un chat. Un chat qui fait partie de vos inspirations, je crois, pour l'écriture de ce roman. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Tout le week-end, vous serez en dédicace au stand L19. Alors j'ai un peu parlé, mais je vais évidemment vous laisser la parole avec une première question directement autour de la thématique de cette rencontre. On plongera ensemble dans vos livres, mais on va parler de vos romans. On parle de vos romans comme des œuvres particulièrement romanesques. Vous avez chacun d'entre vous une envie de roman, certes, mais de roman justement particulièrement enlevé. C'est un goût qui vous réunit. Je pose la question, alors je ne sais pas. Laurent Binet, je vous en prie.
J'espérais que ce serait lui.
Ouais. Non, alors la question, oui, c'est-à-dire c'est large hein, comme sujet, le romanesque. J'ai été qualifié à l'occasion de certains de mes romans précédents de romancier postmoderne pour bon des tas de raisons. Et, je trouvais ça marrant, même si j'ai jamais tout à fait compris ce que ça voulait dire. Mais en fait, je dois bien reconnaître que je dois avoir un côté classique parce que j'aime bien malgré tout qu'un roman raconte une histoire. Et donc, c'est vrai que, en général, enfin, à l'exception d'HHHH qui était une histoire vraie, j'accorde un soin particulier à l'intrigue. Tout simplement, j'ai envie qu'il se passe des choses, ce qui est quasiment la définition du romanesque. J'ai envie d'aventure, j'ai envie de. Donc, mon roman est un roman policier, mais c'est aussi un roman de KPDP. J'avais envie qu'il y ait cette dimension-là à partir du moment où il se déroulait à la Renaissance, avec des personnages. Alors, l'une des particularités de mon roman, c'est que tous les personnages ont existé. Et parmi ces personnages, il y a des personnages historiques. C'est ça qui me plaît, en fait, le personnage historique à romanesque, quoi. Et donc parmi ces personnages historiques, autour de l'intrigue, autour de la mort de ce peintre, il y a un personnage, on trouve un personnage comme Catherine de Médicis, qui a été reine de France pendant presque, enfin, pendant de très longues années, qui a été une femme politique d'une qualité exceptionnelle et qui avait cette qualité spécifique, spécifiquement italienne et romanesque, qui est qu'elle était florentine. Florentine, ça implique les manipulations, les complots, les empoisonnements, etc., etc. Et donc voilà, donc ça, ce personnage m'attirait. La situation géopolitique de l'Italie de l'époque et d'une telle confusion aussi que donc c'est le romanesque de l'histoire, c'est ça aussi, c'est-à-dire que plus une période baigne dans la confusion et dans les troubles, plus elle a un potentiel romanesque. Et puis parmi les personnages moins connus, alors vous m'avez dit, en effet moi j'ai choisi plutôt la peinture, mais il y a quand même un sculpteur qui a un rôle important dans mon histoire et qui est mon personnage préféré, c'est Benvenuto Cellini. Il a sa sculpture célèbre, c'est le Persée qui tient la tête de la Méduse. Si vous avez été à Florence ou si vous connaissez des photos, la sculpture est à côté du David de Michel-Ange sur la place de la place de la Seigneurie, du vieux palais. Et ce personnage a écrit des mémoires et ces mémoires se lisent comme les mémoires de Casanova. C'était un aventurier absolument extraordinaire et c'est sans doute pour ça. Et donc dans mon livre, je lui fais faire des tas de choses, mais qui sont vraiment enfin, tout à fait crédibles, voire véritables, en tout cas pas du tout exagérées. C'était c'était un sculpteur, mais aussi un soldat, il prétend, et personne n'a démontré le contraire, que lors du sac de Rome de 1527, c'est lui en personne qui a tué le connétable de Bourbon qui était à la tête des armées impériales qui assiégeait Rome d'un coup d'arquebuse. C'était un criminel, il a été en prison, il s'est évadé, etc., etc. Et donc c'est vrai que pour résumer, j'aime la dimension romanesque de l'histoire, tout simplement.
Alors Jean-Baptiste, le potentiel romanesque de l'Italie, ça vous parle peut-être? Alors vous, c'était peut-être précisément en Florence. On croise un peu Florence, mais c'est pas forcément que là que se déroule l'histoire. Mais ce potentiel romanesque, c'est ce que vous souhaitiez aussi explorer à travers ce roman?
Oui, alors moi, en plus, quand j'ai lu Laurent très tôt dans la rentrée, j'ai un peu halluciné parce qu'on avait énormément de thèmes en commun, à commencer par le fait que moi, j'ai une photo d'une fresque de Pontormo sur mon bureau en permanence. Donc, et évidemment, moi, j'ai un gros passage à Florence. J'ai fait un grand passage par le cinéma avant de passer à l'écriture exclusivement en 2016 et j'étais beaucoup dans la réflexion dans le cinéma de comment se construire une histoire et même philosophiquement qu'est-ce que c'est de construire une histoire. Il n'était pas question à Hollywood, puisque moi j'ai commencé ma carrière aux États-Unis, de pas raconter une histoire. Et j'ai l'impression qu'on a beaucoup, dans une certaine littérature, laissé au cinéma... Enfin, on a laissé la prérogative de raconter une histoire au cinéma. Ça en est devenu presque vulgaire, la notion de raconter une histoire. Or, la fonction primaire et primitive de la littérature est bien de raconter une histoire. Donc, à part peut-être Montaigne, qui a dû être une des premières autofictions, mais dans l'ensemble, les grands mythes qui ont survécu, les grandes épopées, les grandes légendes, sont parce qu'elles nous racontent des histoires. Et moi, je suis très attaché à ça. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement noble dans le fait de raconter une histoire inventée, mais qui, en fait, dans laquelle chacun d'entre nous peut se reconnaître, de parler à travers une fiction et des cas particuliers inventés de ce qu'il y a d'universel chez nous et du parler du destin de chacun dans le destin de personnages fictifs. Pour moi, c'est absolument vital et ça a probablement une fonction, je ne sais pas, très importante, sociale, que je ne maîtrise pas. Évidemment, je pense pas tout ça quand j'écris, je vous rassure. Hein, moi, j'ai juste envie de raconter une histoire. Mais dans le cinéma, je réfléchis beaucoup sur pourquoi ça se construit, d'où ça vient. D'ailleurs, pardon, mais aparté, mais quand on a demandé à George Lucas d'expliquer le succès de Star Wars, qui a été phénoménal, alors qu'au départ, c'était un petit film que tout le monde rigolait en voyant c'est quoi ce film de science-fiction. Lui a expliqué s'être inspiré d'un livre qui s'appelait Hero with a Thousand Faces, le héros aux mille visages, de Campbell, qui n'est pas un livre génial, mais qui raconte un truc intéressant, ce que faisait Fraser dans le Rameau d'or, qui est qu'en fait, tous les mythes de l'humanité obéissent à la même structure. Qu'on soit au Japon, qu'on soit en Finlande, qu'on soit dans les cultures aborigènes, les études tentent à montrer qu'en fait, il y a toujours le même schéma narratif. Un héros reçoit un appel, part, est effrayé par la violence de cet appel, et puis finalement finit après une traversée du feu et après une confrontation virtuelle avec sa propre mort, c'est-à-dire la chose qui le terrifie le plus, par en ressortir transformé. Ça, c'est la construction de des bons films américains en général. Donc si ça se retrouve dans tous les mythes de la société, ce simple fait de raconter une histoire, c'est peut-être pour ça que nous, bêtement, même sans réflexion préalable, on est attiré par ça, parce que c'est notre connexion entre nous.
Alors, je vous ai vu acquiescer à certains propos sur le cinéma. Je vais reprendre, je vais vous laisser peut-être répondre aussi. Le mystère reprend brutalement ses droits, peut-on lire dans la quatrième de couverture de votre ouvrage. Il était négligé, et peut-être justement, il était peut-être négligé dans la littérature, le mystère, Nicolas ?
Oui. Alors déjà, pour répondre à la première question sur l'envie de roman ou l'envie de revenir à du roman, c'est vrai que... Mais ça rejoint aussi, du coup, votre deuxième question. Dans la définition de roman, il y a un terme qui est devenu un peu vulgaire aujourd'hui, ou en tout cas enfermé dans un genre particulier, qui est l'imaginaire. Et comme disait Jean-Baptiste, il y a une certaine littérature contemporaine aujourd'hui qui trouve ça un peu vulgaire, d'inventer des histoires, de vouloir avoir un peu de souffle, et puis aussi d'écrire des phrases, en fait. C'est-à-dire qu'étrangement, on considère que finalement, le métier d'écrivain n'est pas forcément celui d'un artisan qui travaillerait avec des mots, quoi. Et moi, depuis le début, c'est ça qui me motive, c'est à la fois raconter des histoires qui vous embarquent très très loin et qui ont du souffle et qui racontent à la fois une époque, des personnages, des événements. Et alors effectivement, je suis très inspiré de Campbell et enfin de toute l'influence. En fait, Campbell, c'est un peu une prophétie autoréalisatrice, parce que de par le succès de Star Wars, George Lucas ayant parlé de l'influence du héros mille visages et de cette fameuse structure circulaire du voyage du héros, tout le monde s'est mis à le faire, et de fait c'est très efficace. Et donc voilà, j'ai voulu, avec mon premier roman, je me suis emparé en fait dans cette volonté de redonner aux mots leur pouvoir d'envoûtement. Moi, c'est vraiment ça qui me motive, en fait. Je crois que les mots... Moi, je viens d'une culture où les mots sont magiques, en fait. Dans le golem, on écrit une lettre sur le... Voilà, une lettre sur une statue de pierre qui prend vie. Donc pour moi, les mots, c'est vraiment... La langue, c'est quelque chose de fondamentalement magique et vertigineux. Et je voulais leur redonner ce pouvoir d'envoûtement, d'ensorcellement, parce qu'aujourd'hui, tout le monde écrit. On n'a jamais autant écrit qu'aujourd'hui. Pas seulement des livres, hein, mais y compris la révolution des réseaux sociaux, d'Internet, de Babelio. Enfin voilà, tout le monde écrit, poste à tout va, commente à tout va. Et donc, en fait, les mots sont usés, délavés. C'est un terme que... Moi, alors, je suis également très cinéphile. Je suis... finalement plus inspiré par certains cinéastes que certains romanciers, mais il y a un cinéaste que j'adore qui s'appelle Werner Herzog, qui expliquait au début de sa carrière dans les années 60 qu'il voulait redonner le vertige de l'image dans une société où les images, à cause entre autres de la publicité, étaient délavées, c'est-à-dire qu'elles avaient perdu leur pouvoir d'impact. Je pense qu'il se passe la même chose avec les mots. Donc redonner aux mots leur pouvoir d'ensorcellement et retrouver une espèce de souffle narratif. Je me suis emparé, avec mon premier roman, du sujet le plus anti-romanesque qui soit, qui est le bodybuilding, qui est non seulement n'intéresse personne, mais est repoussant. Et j'ai voulu raconter au travers du corps d'un homme qui a incarné les États-Unis toute l'épopée de la deuxième moitié du XXe siècle. Avec Murnau des Ténèbres, j'ai voulu raconter une histoire que tout le monde, enfin où tout a déjà été écrit, mais qui n'intéresse globalement plus personne. Alors en plus, ça se passe à Tahiti. Au moment où moi j'ai écrit sur Tahiti, ça n'évoque que le chanteur Antoine avec les chemises à fleurs. Et j'ai essayé d'en faire un conte un peu gothico-fantastique à la Melville, à la Stevenson, à la Conrad, voilà. Et avec l'abîme, effectivement, j'ai voulu en fait prendre le contre-pied ultime et m'emparer du sujet le plus petit qui soit, qui était le regard d'un chat. Parce que j'ai passé beaucoup de temps avec mon chat et j'étais complètement subjugué par sa beauté, son mystère, son élégance.
Et vous a inspiré des horreurs.
Il m'a inspiré le mystère. En fait, voilà, la magie, la merveille, quoi. Et donc je me suis dit, je voulais démontrer la puissance du roman et la puissance de la langue. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais ado, mon prof de français qui m'a, comme beaucoup d'écrivains, on a tous un prof qui nous a un moment inspiré, il m'expliquait qu'un bon écrivain, ça pouvait écrire un roman sur une brosse à dents. et qu'en fait, il n'y a pas de sujet. Le sujet n'est pas important. Ce qui compte, c'est le style et le pouvoir narratif, en fait. Et donc, je me suis dit, bah voilà, je vais prendre le sujet le plus petit qui soit, un type tout seul enfermé chez lui avec son chat, et à partir de là, déployer des univers et des potentialités narratives et stylistiques. Et voilà. Excusez-moi, je suis un peu long.
Non, mais je vous en prie, on est là pour tous vous écouter. Un mot, je vous parlais des registres de l'imaginaire qui sont parfois un peu négligés. Ouais. Laurent Binet, vous, c'est un thriller historique, mais un thriller. Et je crois qu'au tout départ, dans le processus, dans les premières idées, vous vouliez écrire tout un polar, point barre, ouais. Avec un amour du genre, avec aussi des choses que le polar peut faire.
Alors, donc, polar n'est pas exactement thriller, et c'est vrai que, bon, bah là, c'est vraiment un polar au sens roman policier à la Agatha Christie. J'étais pas un adorateur du roman policier, j'en ai lu comme tout le monde et ça m'intéressait, mais je crois que ce qui m'intéressait, ça intéressait le côté structuraliste en moi. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'est que c'est un genre très codifié, qui obéit à des règles, des contraintes, et après avoir écrit la septième fonction du langage, enfin de toute façon j'avais écrit la septième fonction du langage parce que pour le coup je suis un amoureux de Roland Barthes et j'aime cette façon d'approcher les textes et même le monde, cette façon structurale de chercher les invariants, les variantes, les combinatoires, disons lire les textes et le monde comme une espèce de jeu de Lego, de jeu de briques, ça m'intéressait. Et le roman policier, c'est un bon terrain d'expérimentation de cette approche structuraliste. Donc voilà pourquoi, oui, j'ai d'abord choisi le genre du polar. Et je ne sais pas si votre question me guidait enfin, vers la question suivante, qui est le genre épistolaire. Le genre épistolaire n'était plus tellement à la mode depuis, en effet, le XVIIIe siècle. Mais bon, alors là, je me suis fait doubler par Virginie Despentes. Il l'est redevenu un an avant la sortie du mien, mais moi, que j'avais commencé bien avant, puisque j'ai encore mis des années à écrire mon livre. Et juste, je voulais revenir. C'est marrant que... Bon, là, sur le thème du romanesque, on a beaucoup, beaucoup parlé de cinéma d'entrée. C'est vrai que tu as très bien posé les termes du problème. Et du coup, là, je réfléchissais à Star Wars en vous écoutant. C'est vrai que Star Wars, il a quand même bien réussi son coup parce que, en gros, si on résume, et je crois qu'on peut résumer ça de façon assez complète, en disant que c'est Œdipe, c'est le roi Arthur. Et alors, donc, les grands mythes, vraiment, hein, bon, Œdipe, le roi Arthur, là, il tue son père, Dark Vador. Et aussi... c'est quand même la chute de la République, l'avènement de l'Empire romain, en fait. Hein, toute la prélogie, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des grands mythes fondateurs, forts, hein, le roi Arthur, Œdipe, déjà, on a... Et en plus, alors c'est pas du mythe historique, mais c'est un événement historique fort, quoi. Enfin, je veux dire, la République romaine, je veux dire, on est des enfants de l'Antiquité gréco-romaine. Et c'est vrai que dans la prélogie, qui est quand même qui est d'une qualité très médiocre, mais il y a quand même je pense que ce qui la rend intéressante quand même, c'est Lucas. On n'imagine pas que c'est un grand politique, et c'est pas vraiment le cas. Mais enfin, il touche à quelque chose aussi de fondateur, de fondamental sur le passage de la République à la tyrannie et comment est-ce que ça s'opère. Et bon, cet élément historique plus deux autres mythes absolument fondamentaux, forcément, ça donne un truc qui parle à beaucoup de gens quand même.
Et peut-être, Jean-Baptiste, vous parlez justement de alors, pas forcément que de Star Wars, mais du cinéma que vous avez beaucoup étudié, des mythes fondateurs. Quand on écrit, vous disiez qu'on pense pas à tout ça, mais c'est dans un coin de la tête. On essaie de s'affranchir de certains types de récits. Quand on est seul devant la plume, enfin avec la plume et la page.
Non, déjà, moi, je pense pas du tout au cinéma quand j'écris. Ça, c'est un peu mon passé. C'est très instinctif, je pense. Enfin, pour moi, le cinéma est un art de contrainte. Donc, apprendre à écrire un scénario écrire des scénarios pendant 20 ans, il se passe quelque chose de non réfléchi, complètement instinctif. Par exemple, je sais qu'au bout d'une... Là, si je vous écrivais un scénario, ce que je vais pas faire tout de suite, en gros, j'écris une histoire... Je fais un traitement, j'écris mon scénario, il va faire entre 108 et 110 pages, sans aucun calcul de ma part. ça tombe comme ça, c'est ma temporalité, c'est ma perception du rythme qui est complètement instinctive. Donc ça, forcément, cette perception du rythme de à quel moment je veux qu'il se passe des choses, à quel moment je veux qu'il y ait des silences, etc., etc., puisque un livre est beaucoup un rythme, justement, c'est quelque chose qui est très instinctif pour moi et qui n'est pas calculé. Non, je ne pense pas à ça activement. Le stade de la réflexion, pour moi, est passé. Maintenant, c'est le stade du plaisir, pour moi, écrire en littérature.
Avec, en premier lieu, les personnages. Le contexte, on en a beaucoup parlé sur la montée du fascisme, dans les critiques, c'est très présent. Mais qu'est-ce qui est en premier ? C'est ce cadre, justement, ou c'est ces personnages ?
Il y a un mystère aussi, moi, dans mon roman, et je rejoins bien ce que disait Nicolas. En fait, au 19e, on avait une fantastique tradition de fantastique, d'ailleurs, d'imaginaire en France, qui s'est perdue. C'est des phénomènes de mode, en fait. C'est assez incroyable qu'on ait laissé partir ça. Même le cinéma de Méliès, c'était science-fiction imaginaire, et on a complètement laissé partir ça aux États-Unis, et j'ai oublié la question.
Non, mais c'était
excusez-moi, je suis fatigué cette semaine. C'est quoi la question ? Ah oui, les personnages. Non, je me rappelle, je suis pas fatigué. Et donc, j'ai eu le mystère de cette statue aussi, qui était un peu un mystère métaphysique qui plane au-dessus de ce livre. Et après, moi, je travaille beaucoup la construction. Et puis, effectivement, qui sont les personnages ? Mais ce sont les deux principaux. Quelle est la dynamique entre les deux personnages ? Comment je vais faire tenir un roman entier sur un couple ? Parce que j'aime ça. Et voilà, moi, je construis beaucoup les événements. Et après, les personnages prennent vie au sein de ces événements. Mais je bosse beaucoup la structure.
Nicolas, vous, on est à Paris dans un immeuble spécial. Vous parlez de la naissance de ce roman avec le personnage et ce chat. Mais j'imagine que cet immeuble n'existe pas, même si vous le situez assez précisément dans le roman. C'est un personnage en tant que tel, cet immeuble ?
L'immeuble ? Oh, oui, complètement. En fait, on aime bien les références et les traditions et s'en emparer et jouer avec. Mais il y a une tradition autant littéraire que cinématographique des histoires de lieux, en fait. L'esprit des lieux. Et j'avais très envie d'écrire... Georges Perec étant indépassable avec La vie mode d'emploi qui raconte chambre par chambre et appartement par appartement toutes les histoires possibles d'un immeuble... Alors moi, j'avais pas cette ambition-là. Je voulais faire un peu plus court, surtout. Mais j'ai toujours été fasciné par les histoires d'immeubles et de lieux, l'esprit des lieux. Alors, à nouveau, Murnau des Ténèbres, ça se passe en Polynésie. Les Polynésiens croient très fort en ce qu'ils appellent le fénois. C'est pas vraiment une croyance. C'est le terroir, mais c'est aussi l'esprit des lieux. Et donc, ils sont convaincus, en fait, que les pierres s'imprègnent des vibrations des vivants et des morts. Et je pense que chez nous, en fait, on a un peu tendance à oublier qu'on habite dans des lieux dans lesquels il s'est passé plein de choses. Et on emménage dans un appartement ou une maison sans nécessairement savoir ce qu'ont vécu les gens auparavant, alors qu'il y a eu des drames, il y a eu des naissances, il y a eu des morts. Et donc voilà, j'avais cette ambition-là. Et puis, en fait, je voulais refaire... Alors, Huysmans, ce grand écrivain de la fin du 19e, a écrit un livre qui s'appelle Là-bas, qui raconte un type qui écrit sur le satanisme médiéval et qui va découvrir que le Paris du 19e connaît encore des messes noires. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de refaire cette histoire en 2023. Et en écrivant ça, enfin en recherchant un peu ça, je me suis rendu compte que Huysmans était venu dans ma rue assister à des messes noires. Alors que généralement on situe plutôt l'occultisme parisien dans le 7e, mais moi j'habite dans le 9e, et il se trouve que c'était vraiment la plaque tournante de tout l'occultisme parisien, européen, et donc ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, et il se trouve que cet immeuble que j'ai inventé est quand même très inspiré du mien, dans lequel j'habite depuis 25 ans, et dans lequel j'ai ressenti beaucoup de choses très étranges, même si je ne crois pas nécessairement aux forces obscures. Mais bon, parfois, on a des impressions comme ça. Et je viens au point de mon intervention. Mais je découvre que non seulement Huysmans est venu assister à des messes noires dans ma rue, mais que dans mon immeuble même, au rez-de-chaussée, se trouvait la librairie du Merveilleux. Qui était, alors là pour le coup, c'était l'épicentre de la plaque tournante de tout l'occultisme européen. Donc elle a été fondée par un certain Papus, qui était on n'imagine pas à quel point c'était une superstar à la fin du 19e siècle. Il écrivait roman sur enfin livre sur livre, c'était pas des romans qui se vendaient voilà par dizaines de milliers. Et il a été invité jusqu'à la cour de Russie pour faire des tourner les tables voilà, et donc ça se passait en bas de chez moi. Donc je me suis dit tiens, ça plus le chat ça fait un roman.
Alors, les lieux sont chargés d'histoire. Jean-Baptiste, c'est un retour en Italie, parce que je crois que votre famille est originaire d'Italie. Vous avez ressenti quelque chose en retournant en Italie? Alors, peut-être pas précisément pour écrire ce livre, mais il y a eu quelque chose dans l'ordre de transmission en allant là-bas?
Oui, probablement. Moi, je crois que j'ai beaucoup fantasmé l'Italie parce que ma grand-mère en vient. J'ai grandi pas loin, à 50 km. J'habite toujours pas loin. Et c'est vraiment le pays où moi, j'ai découvert l'art, en gros. Et je l'ai fantasmé, ce pays. La langue me paraît hyper musicale. Et dès qu'on écoute un truc de pop italienne merdique, c'est toujours sublime parce que c'est... Et trois accords de guitare et ça sonne tellement mieux que... Donc j'ai toujours fantasmé ce pays. Et ouais, j'avais envie de me reconnecter, mais c'est très virtuel tout ça, c'est dans ma tête. J'ai surtout envie, je crois, de rendre hommage à la puissance en fait de l'art et voir, j'allais dire, transformatrice. Enfin, l'art peut changer nos vies vraiment. C'est-à-dire que si l'art peut changer nos vies au sens où on peut voir sur un moment un morceau de musique, un livre, on peut décider d'infléchir le cours de nos vies. C'est à ça que je veux faire allusion. Puis il y a beaucoup de magie aussi dans l'art. Moi, je suis compliqué dans ma tête et j'ai essayé de mettre ça un peu au clair dans ce roman.
Beaucoup de magie dans l'art, on est aussi dans votre roman à Florence, la magie est omniprésente, même s'il y a des meurtres. J'en parlais tout à l'heure de cette période qui est un point de bascule dans la Renaissance. C'est cette période-là précisément qui vous intéressait, et parce que Jean-Baptiste parlait de l'idée de fantasmer un peu l'Italie. Est-ce que vous-même, vous fantasmez encore toujours un peu l'Italie ?
Bah bon, je connais peu de gens qui ne sont pas intéressés par l'Italie, hein. C'est vrai que bon, c'est tellement riche. Est-ce que moi, c'était cette période-là spécialement qui m'intéressait ? Non, moi, ce qui a gouverné, à la base, non. Ce qui a décidé de l'époque précise de mon intrigue, c'est le choix de l'enquêteur. L'enquêteur, donc j'ai choisi Vasari, qui passe pour être l'inventeur de l'histoire de l'art, parce qu'il a écrit beaucoup sur les peintres. Italien de son époque et d'avant, et je me suis dit, ben tiens, voilà quelqu'un dont le métier, la vie a été d'aller observer des tableaux, c'est quelqu'un qui a le sens de l'observation, donc il ferait un bon enquêteur. Donc c'est ça qui a déterminé le choix de la date de mon intrigue, 1557, mais ensuite je me suis rendu compte que l'époque était particulièrement intéressante à plein de niveaux, donc à des niveaux géopolitiques, bon, la confusion de... La confusion géopolitique, l'Italie était le terrain de bataille, c'est la 11e et dernière guerre d'Italie, le terrain de bataille, entre le champ de bataille entre la France et l'Espagne. Bon, mais aussi au niveau artistique, c'est le crépuscule de la Renaissance, au niveau politique, idéologique, artistique, c'est la contre-réforme, c'est le y a quelque chose de crépusculaire, et ça aussi, le crépuscule, d'un point de vue romanesque, c'est toujours intéressant. Ensuite, sur les lieux, oui, moi, ce que je peux dire sur les lieux, c'est qu'en fait, bon, on me fait remarquer à juste titre que j'écris toujours des romans historiques, hein, et que bon, bah, vraiment, mon œuvre est marquée sous le sceau de l'histoire, mais il y a quand même une dimension géographique aussi, même si mon père, qui était prof d'histoire géo, a toujours dit que j'étais nul en histoire géo parce que je ne savais pas situer Toulouse sur la carte. Alors, il exagérait un peu, mais à peine. Mais il se trouve quand même que mon œuvre est très marquée géographiquement, puisque à chaque livre correspond à un lieu. HHHH, c'est Prague. Les deux suivants, c'est les chapitres dans la septième fonction du langage, sont des chapitres, c'est des noms de lieux. C'est Paris, Bologne, Ithaca aux États-Unis, etc. Et donc là, j'avais envie... Alors, civilisation, c'est vraiment dans le monde entier. Mais justement, c'est-à-dire, c'est quand même une histoire de voyage, de géographie. Et donc, celui-là, c'était... Ben oui, c'était Florence, parce que Florence quitte... J'avais envie de resserrer, justement. Civilisation, c'était déjà à l'époque de la Renaissance, mais dans le monde entier. Et là, pour le roman policier, je pense que le huis clos est la forme privilégiée d'un bon roman policier. Et donc là, mon huis clos, j'ai décidé que ce serait le foyer de la Renaissance, en l'occurrence Florence.
Nicolas, donc on en a un peu parlé, mais vous, c'est donc à Paris, dans Paris contemporain. On peut y trouver autant de mystère et que dans la Florence de la Renaissance ou l'Italie du XXe siècle.
Dans le Paris contemporain.
Oui.
Ouais, je crois qu'il suffit de savoir regarder, je sais pas. Enfin, ou alors pas de savoir regarder, mais de chercher à regarder en fait. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Vous parliez tout à l'heure de la façade que je décris en ouverture du roman. J'avais envie d'encourager les gens, les gens, à lever les yeux, en fait, à regarder. En fait, on marche dans Paris très souvent, c'est un peu un cliché hein, de dire ça, mais bon, alors de plus en plus, déjà, on marche dans Paris sans regarder autour de soi, mais alors de plus en plus, on regarde dans le téléphone. Et alors que, alors bon, moi j'ai un rapport d'amour-haine avec Paris, qui est une ville magnifique
comme
et
détestable. Comme tous les Parisiens.
Ouais, comme tous les Parisiens, qui est magnifique et détestable. Mais il y a quand même des. Alors c'est pas seulement des merveilles architecturales, il y a plein de petits détails. Alors notamment, j'avais lu il y a très longtemps un livre d'un type avec qui j'avais bossé, qui est ethnologue. Moi je suis aussi anthropologue. Et il avait étudié les coupeurs de tête à Bornéo. Il s'appelle Christian Gattard. Il a écrit un livre qui s'appelle Le peuple des coupeurs de tête. Et c'est un livre sur les mascarons. Les mascarons. Les mascarons, c'est les petits masques qu'on voit sur les façades. On en a énormément à Paris, il y en a dans plein d'autres villes. Et rien que ça, rien que de lever les yeux pour voir un peu. Alors souvent, c'est des créatures un peu étranges, c'est des chimères, c'est des hybrides. Je trouve ça fascinant, quoi. Et derrière, en fait, c'est pas juste oh là là, regardez comme Paris est beau. C'est en fait, on parlait de magie, qui est un mot absolument fondamental. Alors la magie, c'est pas la magie du magicien qui sort le lapin de son chapeau. La magie, c'est il y a une vraie tradition séculaire des mages en fait et de ces gens qui abordaient les secrets de la création du cosmos, l'origine de la vie sur Terre, la vie après la mort, voilà. Et en fait, moi, tout ce que je fais est traversé par l'idée de la verticalité. Je pense que la littérature est là pour en fait, ouvrir des brèches dans. Je suis très influencé par une philosophe qui s'appelle Annie Lebrun, qui parle beaucoup de verticalité et de gothique, et qui dit que. Alors, elle dit ça de la poésie, mais il me semble qu'elle serait d'accord que ça s'applique également à la littérature. C'est une brèche qu'on ouvre dans l'aplat du réel. Je pense que, voilà, on vit tous des vies comme ça, où on colle un peu à la réalité, et la littérature ouvre comme ça une espèce de faille, ça va vers le haut, ça va vers le bas, mais c'est vraiment un appel en fait à prendre de la hauteur et à essayer de s'approcher de certains mystères, pour revenir à votre mot premier. Donc je ne sais pas du tout quelle était votre question non plus, mais bon, voilà.
On parle de romanesque. Ah bon. Vous souhaitiez réagir tout à l'heure, vous aviez levé le micro, mais je ne sais pas si vous souhaitiez.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que j'entends. J'ai dû avoir un mouvement.
Je vous en prie. Pour rebondir sur ce que dit Nicolas, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu parler de Annie Lebrun. Moi, j'ai beaucoup pratiqué Annie Lebrun quand j'étais jeune. J'étais très influencé par Annie Lebrun. Et je suppose que ça colle avec ce que tu disais sur les mystères de Paris, à part Eugène Sue, me faisait penser aux paysans de Paris d'Aragon. Annie Lebrun adorait Aragon. Et j'en profite pour citer une phrase d'Annie Lebrun qui m'a beaucoup marqué, influencé et inspiré. C'était « Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je méprise.
» Oui, elle a des idées très, très fortes. Mais c'est une grande dame, je vous encourage à lire certains de ses livres.
Un mot sur le romanesque toujours. Il y a Jean-Baptiste dans votre histoire, dans votre roman, une histoire d'amour très forte, qui a de multiples facettes entre deux personnages qui n'étaient pas clairement destinés à se rencontrer. Il y avait l'idée d'explorer ces facettes de l'amour avec un grand A.
Oui, alors je précise quand même, parce qu'on a pas mal utilisé ce mot-là, notamment sur des affiches dans le métro, parce qu'il fallait trouver un angle marketing, c'est que c'est pas du tout une romance. C'est une histoire, c'est une relation. Donc c'est amour, oui, au sens le plus large possible. Amour, détestation parfois. Amour, provocation. Amour, fusion. Il y a de tout. Ce sont des amis. Moi, je crois que. En fait, la relation à autrui, quand elle est incroyable, ça fait partie des choses qui nous connecte avec une forme de transcendance. Moi, je suis tout le temps en recherche d'une bonne raison de ne pas craindre la mort, en fait, parce que je suis hypochondriaque depuis que je suis tout petit. Et donc, je recherche une présence au-delà. Je ne suis pas très dogmatique, pour le coup. Je trouve cette présence dans l'art, justement, parce que là, ça me fait... Je sais pas, ça me connecte à quelque chose de tellement plus grand que nous, ça me fait moins craindre ça. Je trouve cette présence dans la nature qui aussi me sort de moi-même. Et on trouve tous cette présence, on a tous cette expérience dans la relation à autrui, qui est quand même un moteur de nos vies, puisque je pense que tous ici, on a construit ou l'essentiel d'entre nous, notre vie est quand même, a été ou est partiellement définie par une rencontre majeure avec une autre personne à un moment de nos vies. Donc c'est ça qui m'intéresse, cette énergie-là. C'est une vraie énergie, c'est une pile nucléaire qui propulse un roman.
Je crois que l'on devrait toujours lire les livres que l'on a lus adolescents. C'est une phrase de votre livre, Nicolas. En tout cas, c'est une phrase que dit un des personnages. Qu'est-ce que vous lisiez quand vous étiez adolescent? Est-ce que ça a influencé votre écriture et votre amour peut-être de l'écriture? Alors Nicolas, je vous en prie, comme c'est une phrase de votre livre.
Oui, alors, pourquoi pas. Je lisais précisément Huysmans, dont je parlais tout à l'heure, qui est donc un auteur de la fin du 19e, dit décadentiste, mais qui a un parcours spirituel assez intéressant, en fait, parce que donc il écrit là-bas, qui est vraiment un livre qui, à l'époque, fait scandale, parce que ça décrit les messes noires, le satanisme de la fin du 19e, etc. Et en fait, sur la fin de sa vie, il se convertit au catholicisme. Et il écrit... Alors, avant, là-bas, il écrit un livre qui s'appelle « À rebours », qui est aussi un livre très... en fait, d'un type qui déteste son époque et qui va chercher dans des plaisirs artificiels une forme de transcendance, en fait, mais qu'il ne trouve jamais. Et... comment il s'appelle déjà? Barbé qui dit...
Gilles Barbé d'Anvilly.
Voilà, à propos de À rebours, il dit, quand on a écrit un livre pareil, on n'a que le choix entre le... Je ne sais plus exactement comment il le formule parce que je suis très fatigué, mais entre la crosse du pistolet et la croix. Et de fait, Huysmans, en 1903, écrit une préface à la réédition d'À rebours en disant, voilà, j'ai fait mon choix. Et donc, il va comme ça vers la religion, vers le mystère, vers la magie, vers Dieu. Et c'est un personnage absolument sidérant, quoi. Alors voilà, quand on est ado, on lit là-bas parce qu'il y a un côté un peu rock'n'roll, quoi, les messes noires, Satan, le diable, on écoute Led Zeppelin et puis voilà, on fait la connexion entre les deux. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment un des tout plus grands écrivains de l'histoire, enfin en tout cas européenne, si ce n'est le plus grand, précisément parce que j'en reviens toujours au métier d'écrivain, en fait. C'est un type qui non seulement arrive à vous tenir en haleine sur rien du tout, parce qu'en fait, ses intrigues sont assez mineures dans ses livres, mais c'est un styliste hors pair. Enfin, il est capable d'écrire 5 pages sur un étal de poissonnier, et vous trouvez ça magnifique, et vous n'avez jamais vu quelque chose d'aussi beau. Donc je lisais ça, je lisais Bret Easton Ellis
qui est cité dans le roman aussi,
que j'adore, qui est cité dans le roman, qui est une influence majeure de l'abîme, notamment dans la deuxième partie de son œuvre, dans laquelle il se met en scène lui-même, et donc dans Lunar Park, en fait l'auteur de American Psycho, donc lui-même est rangé, voilà, il vit en banlieue pavillonnaire avec sa femme, et le personnage, enfin le tueur d'American Psycho réapparaît. Enfin, en tout cas, il y a un tueur dans son environnement, dans son voisinage, qui reproduit les meurtres d'American Psycho. Et il arrive à créer une ambiance très intrigante, inquiétante, voire horrifique, à partir de rien. Donc je trouve cet auteur absolument fascinant.
Jean-Baptiste, est-ce que vos lectures adolescentes ont façonné ?
Oui, moi je disais de tout, beaucoup, très éclectique, mais c'est vrai que quand on me pose la question, je repense très 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 souvent à John Fante, dont j'ai tout lu, que j'adore. John Fante écrivait souvent sur lui qui voulait devenir écrivain, en fait, il se projetait toujours dans ses livres, et il y avait beaucoup d'histoires d'écrivains qui galèrent. Et je trouvais ça dingue parce que je m'identifiais complètement à ça. Moi, je veux être écrivain depuis que je suis petit. Je n'ai fait que ça dans ma vie, d'ailleurs. Et je trouvais ça génial dans Demande à la poussière de voir ce type qui est dans ce petit appartement merdique et qui galère et tout d'un coup qui vend une histoire, il reçoit 20 dollars, il va le dépenser dans le bar du coin en bière et il repart avec la serveuse. Et moi qui étais un petit gringalet qui pensait qu'à écrire ça marchait, c'était pas super avec les filles, donc je me disais, si en plus quand t'es écrivain tu peux gagner 20 dollars, t'as le droit de barre de la bière et tu peux peut-être séduire la serveuse, c'est génial. Et alors c'était surtout l'écriture, l'angle, je vends mes histoires qui m'intéressait et je peux raconter mes histoires, mais vraiment ça me fascinait tout ça. C'était, je me projetais beaucoup dans ces destins là et ça m'a aussi préparé et vachement mis en tête que ça allait être dur et que il y avait de la beauté dans le fait qu'il fallait galérer et voilà, ça me construisait un mythe en fait de cette figure de rêve.
Laurent,
moi à l'adolescence, ce qui m'a formé, donc comme je disais, c'est j'ai eu une grosse période surréaliste dont la trace n'est pas évidente aujourd'hui dans ce que j'écris, parce que je ne fais pas d'écriture automatique, je ne fais pas de poèmes surréalistes, mais ça m'a en fait très très durablement marqué, notamment par ce que disait Breton dans le Manifeste du surréalisme. Il citait Paul Valéry, mais enfin on ne sait pas si c'est Valéry qui l'a dit ou pas, mais enfin en tout cas Breton le reprend à son compte. Jamais je ne pourrais écrire une phrase comme La Marquise sortit à 5 heures. Et c'est vrai que ça m'a fait me méfier immédiatement, enfin, c'est-à-dire ça m'a fait comprendre les limites du roman, de ce qu'on appelle le roman balzacien, pour aller vite si vous voulez, c'est-à-dire le roman classique, traditionnel, en gros réaliste et psychologique. Et c'est vrai que je me suis, alors avec des exceptions en fait, hein, c'est-à-dire en fait, bien sûr que Balzac, c'est un génie et son œuvre est formidable, mais je pense que le modèle balzacien, enfin j'ai eu conscience très jeune que le modèle balzacien était épuisé et que pour moi, un bon roman, il fallait que ce soit plus que ça. Et notamment, eh ben, un peu après, j'ai découvert Bret Easton Ellis. Et là, je me suis dit, ah ouais, on peut faire ça, un roman peut faire ça. Et ce que j'adore dans Bret Easton Ellis, c'est le fait que ces récits sont piégés, en effet. Que le narrateur n'est pas fiable, que le tueur d'American Psycho, on ne sait pas à la fin s'il a tout inventé ou pas. Glamorama, c'est encore plus dingue. À la fin, on se rend compte que les héros avaient une espèce de don d'ubiquité, mais sur 10 lignes, on se rend compte que en fait, c'est le père du héros qui avait engagé des doublures, un truc. Et donc ça, j'aime bien cette espèce de jeu avec le lecteur ou de jeu de chat et de souris avec le lecteur. Et c'est ça que, sous diverses formes, moi, j'ai essayé de pratiquer. Et c'est vrai que donc du surréalisme qui m'apprend à me méfier au modèle de Bret Easton Ellis, je ne fais pas du tout non plus du Bret Easton Ellis, même si la septième fonction du langage, toutes les scènes de soirée étaient largement inspirées des scènes de soirée de Bret Easton Ellis. C'est vrai que ouais, moi aussi, c'est un modèle très, très, très... Pour moi, c'est le plus grand écrivain vivant, Bret Easton Ellis.
Je peux juste rebondir bien sûr, deux secondes par rapport à cette notion de la confiance qu'on accorde au langage en fait et donc à l'auteur ou au personnage. Pour moi, c'est vraiment fondamental. On parle depuis le début de mystère, de magie, d'imaginaire. Pour moi, la langue est fondamentalement illusionniste en fait. Il y a quelque chose dans le langage, c'est ce qui tient le monde. C'est-à-dire que là, je vous parle et j'ai l'impression que vous me comprenez parce qu'a priori, il y a, on partage le vocabulaire, etc. Et en même temps, il y a un doute fondamental. C'est-à-dire que on sait très bien que entre ce qui sort de ma bouche et la manière dont c'est reçu par vous et par les personnes ici présentes, il se passe plein de choses, quoi. Et donc, à nouveau, j'en reviens à ce vertige, cette faille, quoi. Et pour moi, l'écrivain doit travailler ça, le roman doit travailler ça. Qu'est-ce qui se passe quand on raconte une histoire? Où se situe le rêve? Où se situe le réel? Où se situe la fiction? C'est ça qui est excitant, en fait.
Et un mot sur le pouvoir des mots, mais aussi des livres de manière générale. Andrea, je vais vous citer une phrase dans votre livre. Alors que le fascisme monte dans le récit, je traversais, donc c'est votre personnage qui parle, je traversais ces événements avec détachement. Je suis artiste et ce n'était pas moi, du haut de mon 1m40, qui allait infléchir le cours de quoi que ce soit. Alors, on parlait de la magie des mots. Est-ce qu'il y a tout de même une possibilité pour l'art de transformer son monde?
Oui, parce que en fait, cette phrase n'est pas à prendre littéralement. C'est une mauvaise excuse qu'il utilise pour justifier des très mauvais choix. Donc moi, je pense exactement le contraire. Et c'est marrant, Nicolas, tout à l'heure, moi j'ai parlé exactement du golem dans une rencontre il y a pas longtemps. Moi, la culture juive et la Kabbale, c'est d'une richesse et d'une intelligence et d'une sensibilité très très profonde. Et cette idée d'animer une créature de pierre avec un mot, j'ai utilisé exactement ce que tu disais. Oui, mais je crois que, mais bien sûr, l'art et les mots, enfin, changent nos vies, ne serait-ce que parce qu'un bon romancier, au fond, je l'ai dit plein de fois, capture bien plus de la vérité et de l'avenir que n'importe quel essai. Si vous voulez voir l'avenir, cherchez-le dans les romans et pas dans les essais. Et si vous voulez analyser le passé, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on prétend quoi que ce soit, mais il y a une écoute tout le temps du romancier. On est tout le temps à l'écoute du monde, dans tout ce que ça veut dire, et des autres pour le mettre dans nos romans. Je crois que un bon romancier donne à voir l'invisible et peut-être même ce qui n'advient pas encore. On l'a vu mille fois, par exemple, pour la science-fiction. Donc, bien sûr qu'il faut être... les mots sont vision, les mots sont prédiction et les mots transforment le réel, absolument.
Il nous reste, je crois, une minute pour une question. La question.
Oh bah merde. Pas de pression.
Beaucoup de pression. Oui, il y a une question là-bas, je vous en prie. On va vous donner un micro. Quelqu'un arrive pour vous donner un micro.
Est-ce qu'on se lit les uns les autres ?
On a l'impression qu'il y a quand même une certaine connivence. On imagine que, bon, évidemment, vous côtoyez depuis peut-être quelques années, mais est-ce que vous lisez les uns les autres ? Et quelque part, est-ce que ça fait écho pour vous aussi, pour écrire ? Est-ce que c'est source d'inspiration aussi ? Pas que vous trois, hein, je parle de vous, auteur.
Ben forcément, enfin on lit tout le temps. Moi, je fuirais un autre auteur en source d'inspiration. Ça me permet la question de dire que ça, et je le dirais jamais si c'était pas intimement, si je le pensais pas très intimement, je dis jamais ça en rencontre d'habitude. Mais ça, c'est les deux meilleurs romans que j'ai lus dans cette rentrée littéraire, avec celui d'Éric Chacour. Vraiment.
Ça tombe bien. Hein.
Je vous jure sur ma vie que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Je vais vous raconter une anecdote plus drôle alors. Enfin, j'espère, ou tragique. Au début de la rentrée, moi, je suis personne. J'espère que mon livre va trouver du public. Laurent Binet sort. Putain, Laurent Binet, je ne l'ai jamais lu. Je le déteste déjà parce que putain, tout le monde connaît Laurent Binet. Son livre caracole en tête des ventes. Je me dis, bon, quand même, si je le vois à Nancy, je le pousserai peut-être dans l'escalier. Sauf que ça pourrait encore augmenter ses ventes. Donc, je ne ferai rien. Mais surtout, je me dis, il faut quand même que je lise le mec. Ça fait des années que j'entends parler de lui. Je lis son bouquin et je me dis, ah ouais, d'accord. Et pourquoi ? Parce que là, il y a un travail énorme dans ce livre. C'est quelque chose qui m'est très cher. On en revient à l'écriture, mais l'idée, il y a tellement d'écrivains en France qui écrivent au fil de la plume sans travail. Moi, c'est une agression pour moi quand je lis un bouquin comme ça, surtout chez quelqu'un qui a du talent. Là, il y a du travail, il y a de l'imaginaire, voilà. Et Nicolas, je l'ai lu donc il y a pas longtemps parce que j'ai vu qu'on allait faire une rencontre. Parfois, on essaye, parfois on n'a pas le temps de se lire, hein, c'est pas. Mais là, j'en suis à la moitié et c'est pareil. Ça, tout d'un coup, ça faisait longtemps que j'avais pas lu. Mais un écrivain français qui écrit un roman comme ça, fantastique, enfin borderline fantastique, moi j'ai trouvé ça fabuleux, je vous jure que c'est vrai, et Éric Chacour, Ce que je sais de toi. C'est les trois romans que j'ai préférés dans cette rentrée.
Merci.
Merci beaucoup, merci à toutes et à tous, que ça va conclure la rencontre. Un mot tout de même, déjà pour redire un tout petit mot rapide sur les livres. Nicolas Chemla, L'Abîme aux éditions du Cherche Midi. Vous serez tout le week-end au stand L19. Laurent Binet, publié aux éditions Grasset Perspective. Vous serez au stand L25 aujourd'hui. Et Jean-Baptiste Andrea, Veillez sur elle aux éditions de l'Iconoclaste. Vous serez en dédicace tout le week-end au stand L28. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci
au festival, à la Foire du Livre et à tous les bénévoles qui travaillent pour le festival. Merci à tous.